Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 9, la nuit de l'after continue jusque très tard évidemment ce soir, jusque 5h. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure nous aurons à 2h du matin le match Mexique-Angleterre. Mais là la sensation du jour c'est l'élimination du Brésil. La Norvège gagne face au Brésil 2-1. On va analyser ça ensemble. Le 32-16 est ouvert, le numéro WhatsApp de l'after également 0612 424 424. Daniel Henriot est de retour. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Il est resté aux États-Unis parce qu'il veut devenir américain. Est-ce qu'on va lui donner un passeport ? Est-ce qu'on va l'autoriser à rester ? On ne sait pas, mais pour l'instant, il est là. C'est Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut à tous.
La Norvège qualifiée. Et là, on voit Haaland, les gars, qui a l'air de se dire mais c'est un truc de fou ce qui nous arrive.
Ah, c'est lui qui va au tambour.
On a l'impression que lui-même n'y croit pas.
Alors, il n'y est pas allé. D'habitude, c'était pas lui.
Là, d'habitude, c'est Odegaard. Là, il y a le cérémonial habituel des Norvégiens de fin de match, tambour. Et ils se mettent les fesses sur la pelouse pour leur désormais célèbre chorégraphie des Vikings qui rament. Et donc, Haaland qui a éliminé le Brésil. Hein. Il a mis un doublé, Haaland, alors que les Norvégiens. Était pas bon hyper dominateur finalement dans le match. Les gars, c'est quand même une sacrée sensation hein.
Alors je n'accepte pas l'expression parce que moi je voyais la Norvège gagner, je l'avais annoncé. Pour moi c'est la décadence attendue du Brésil. Je les voyais pas du tout s'en sortir, les Brésiliens. Tout ce qu'ils avaient montré était beaucoup trop faible et tout ce qu'avaient montré les Norvégiens m'indiquait en tout cas personnellement qu'ils allaient sortir le Brésil. Maintenant le paradoxe c'est que dans ce match j'ai vu le meilleur Brésil depuis le début de la compétition. Et c'était un match plutôt équilibré. Donc, comme tu l'as dit, on peut pas non plus dire que la Norvège a complètement dominé la rencontre, qu'elle a écrasé son adversaire. C'est pas vrai. C'est un match équilibré où la Norvège, qui dégage de façon assez étonnante, parce que je ne sais pas ce qui l'autorise à être aussi sereine, aussi sûre d'elle, à ce point en confiance, parce qu'on peut pas dire que c'est un pays qui a une histoire dans la Coupe du Monde de foot, une histoire tout court dans le foot, quoi. Mais la sérénité, la tranquillité qu'il dégage dans un huitième de finale contre le Brésil, bah moi je suis assez bluffé par ce qu'ils font. Et oui, ils sont là, à l'image de Haaland qui se permet de mettre un deuxième but qui aurait fait exploser de joie n'importe quel mec, et lui il fait en sorte d'avoir le second degré de rester tranquille. Parfois, on se passait la balle de façon limite un peu dangereuse, alors que le contexte du match était arrivé à un stade un petit peu, tu vois, fin de match un peu dangereuse, quoi, enfin un peu tendue. Je ne sais pas ce qui les autorise à avoir cette attitude. En tout cas, ils l'ont. Moi, je les félicite. On dit souvent qu'une grande équipe dans des tournois, c'est un gardien, un attaquant. Bah, ils ont le gardien, ils ont l'attaquant. Quart de finaliste. Ils seront outsiders du quart de finale, mais peu importe contre qui, je les donnerai pas mort. Hein.
Kevin.
Bah écoute, non mais l'analyse de Daniel, j'ai un peu la même, c'est-à-dire que pour aller dans son sens, moi je les ai vus au stade donc face au Sénégal et pourquoi ils sont sereins, parce que dans le football il y a deux types d'équipes, il y a les équipes qui ont un plan avec un collectif très fort, sublimé souvent par une individualité qui est en l'occurrence l'avant-centre, et là on peut rajouter aussi le gardien et Martin Odegaard, et aussi Ayer, c'est-à-dire qu'ils ont un joueur par ligne de très haut niveau dans cette Coupe du Monde, le gardien. Ayer, le défenseur central, Martin Odegaard et Haaland. Et quand t'es une équipe avec une fédération, avec tout un pays de football qui travaille très bien depuis 10, 15 ans, c'est pas pour rien qu'ils ont cette génération. Tu vois les centres de formation, on en parle souvent.
Ça empêche pas l'émotion quand même. Et parfois, même quand tu travailles bien, tu peux être pris par l'émotion.
Il y a le côté nordique qui fait qu'ils sont très flegmatiques.
Maintenant,
ce qui est très intéressant de regarder dans ce match, c'est que moi, je pense que le Brésil a fait un meilleur match que la Norvège.
Le Brésil n'a pas de plan. C'est même leur meilleur match depuis le début de la compète. Je suis d'accord avec toi.
Le Brésil n'a pas de plan. Et surtout, le Brésil n'a pas les individualités au niveau pour les faire gagner. Parce qu'aujourd'hui, t'as 2,75 d'expected goals. C'est énorme.
Contre 0,49. Il y en a un qui est pris en entier par le péno. Donc, il faut faire attention.
Oui, mais quand même. Ça fait partie des occasions énormes. Oui. C'est-à-dire que t'as deux pénaux. Bah, t'en as un qui est marqué, un qui est pas marqué. Donc, t'as 2 fois 0,75, certes. Mais derrière, t'as 66% de possession pour la Norvège. Parce que c'est aussi le jeu de la Norvège. D'avoir un peu de maîtrise, d'avoir la qualité technique pour avoir les ballons.
conviendras, est quand même assez étonnant que le Brésil, en nombre de passes, en nombre de possessions,
se fasse dominer
par la Norvège. D'un point de vue histoire du football, c'est quand même le monde à l'envers. Et cette anormalité-là, elle ferait... Alors, moi, si j'étais brésilien avec l'histoire... Moi, je ne pourrais pas, à la Fédé brésilienne, je ne pourrais pas supporter ce qui s'est passé ce soir. Qu'un pays, un tout petit pays comme la Norvège, dont la tradition n'est pas le jeu avec ballon, n'est pas de nous voler notre jeu. Et que moi, le Brésil, ce grand pays de football, le pays le plus grand, celui qui a été pendant des années le synonyme du football. Tu mettais football égal Brésil. De sortir avec une défaite en huitième contre la Norvège, avec des stats comme ça, parce que c'est pas genre on avait 60%, ils ont fait un hold-up, machin. C'est même pas ça. Moi, si je suis à la Fédé, mais j'arrive, je passe tout au karcher.
C'est une Fédé qui est en grande difficulté.
C'est une insulte à l'histoire du football brésilien.
C'est une Fédé qui est en grande difficulté. On a eu la chance immense grâce à RMC et avec Antoine Varnier notamment aux manettes et Nico Jamin et Maxime Chanot de rencontrer Romario, et Romario nous l'a dit. Quand on lui a demandé est-ce qu'il était fan du choix Ancelotti, il a dit bien sûr que non. Moi, j'aurais voulu un Brésilien, mais forcé de constater.
Ils n'ont jamais eu de coach, donc.
Oui, non, mais forcé de constater qu'il n'y avait pas le niveau.
Champion du monde, c'est Parreira, Zagallo.
Mais c'était un coach.
C'était un coach accompagnateur.
Coach comme les Brésiliens n'aiment pas en plus, donc.
C'était un coach accompagnateur de grandes vedettes et de grandes stars. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je te dis. Je pense que on est bien dans l'after, et il faut bien noter que là, t'as une fédération, t'as tout un pays de football qui travaille très bien depuis 15-20 ans et qui arrive à cette génération, qui arrive à ces joueurs sublimés par un talent énorme que eux, ils n'avaient peut-être pas vu venir, mais en tout cas qu'ils ont su détecter et développer, et ensuite qui a fait les bons choix dans sa carrière. Et puis de l'autre côté, t'as un des plus grands talents de l'histoire du foot qui lui n'a pas fait les bons choix, et surtout une fédération qui depuis 20 ans travaille de façon catastrophique et qui aussi, il faut le dire, est bouffée par le football business, parce qu'on en a aussi parlé avec Romario, les Brésiliens qui partent à 15-16 ans en Europe, alors qu'ils sont à peine des hommes, à peine des jeunes hommes, et forcément, ça les aide pas à se construire, à devenir des grands footballeurs, comme ça a été le cas des autres qui sont restés quand même un peu plus longtemps pays.
Pour le Brésil, le seul recours politique, de communication, de je ne sais quoi, c'est de faire une annonce de liste en vendant le retour de Neymar. C'est une guignolerie absolue. On sait très bien qu'il joue plus au foot depuis des années. Il est rentré pourquoi ? Pour se prendre la tête avec le gardien, pour tirer un pénalty en chambrant le gardien, et pour finir accroupi en train de chialer comme il fait tout le temps, comme un sale môme. Ça va, t'as 35 ans.
Le problème c'est pas Neymar. Le problème c'est que t'as Ryan qui est titulaire. Le problème c'est que t'as Martinelli qui est titulaire, qui doit être un remplaçant de luxe. Le problème c'est que t'as Matheus Cunha titulaire. C'est pas le problème, c'est pas Neymar qui est remplaçant.
À partir du moment où t'es enfermé dans des considération politique qui t'oblige à prendre un mec qui peut pas jouer, et que le seul recours c'est de te dire à la 75e, parce que tu y as pensé toi Kevin, j'y ai pensé moi. Oui, je me suis dit à la 75e, quand il est rentré, tu vois pas que c'est Neymar qui fait la décision. On y a tous pensé à ça, parce qu'on croit tous à cette connerie. Mais c'est pas du projet de football, toi qui aimes développer des projets, toi qui es toujours.
Mais c'est pour ça que je te dis que c'est une fédération qui a mal travaillé, qui en devient tributaire.
Bonne idée de miser sur le fait que dans un match chaud, à la 75e, tu comptes sur le miracle Neymar.
C'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est que Casemiro soit encore titulaire.
Ça fait 10 ans qu'il a fait le coup d'aller chambrer les gens pour finir en chialant. Au moins chambre, mais chiale pas. Arrête de chialer sans arrêt. Il fait que chialer, ce gars.
Ça c'est Neymar. On va pas le refaire maintenant.
Va en boîte de nuit comme t'as fait pendant la prépa, où t'étais à New York en boîte alors que tes copains s'entraînaient. Allez, file à Vegas pour jouer, arrête de nous emmerder.
Dis donc.
Mais non, mais il est insupportable. Honnêtement, si je suis brésilien, je pète un câble. Mais le problème n'est pas Neymar ce soir.
Ancelotti
se sent obligé de l'appeler.
Mais oui, mais il y a personne d'autre. J'ai parlé avec des Brésiliens dans New York il y a 10 jours qui
disent. Mais c'est pas normal qu'il y ait personne d'autre. C'est un pays de football.
Mais oui, mais d'accord, mais c'est pas la faute de Neymar.
Hendrick, c'est un détail.
Là, ça me pose un problème que les Brésiliens pensent que Hendrick, avec tout le. J'ai de l'affection pour lui, ça a l'air d'être un bon petit.
Une star planétaire,
mais oui, ils pensent qu'Hendrick, je te l'ai dit, c'est le nouveau Pelé, ils me l'ont dit.
Mais ils me l'ont dit, ça veut dire qu'ils comprennent plus rien au ballon alors.
Eh ben oui, mais malheureusement, c'est où en est ce pays de football aujourd'hui. Le seul un des rares Brésiliens sur le terrain, c'est Martino De Garde. voilà, qui a la technique, qui a la vista, qui va pas très vite, mais qui est intelligent, qui tombe pas dans les provocations et dans la frustration des Brésiliens à la fin, et qui lui fait une grande Coupe du Monde. Voilà. Mais Martino De Garde aussi, il a failli être broyé par le football business en signant à 15 ans au Real, et il a su rebondir.
Qu'on peut s'en sortir, Kevin. Voilà, quand on est intelligent et qu'on travaille. Ce qui n'est forcément pas le cas des Brésiliens.
Oui, mais c'est pas facile.
L'intelligence parmi les joueurs brésiliens, c'est pas ce qui est le plus partagé, je te le dis, moi. Tu prends de Vinicius à Neymar, à un tas de joueurs brésiliens, c'est pas ce qu'on développe en priorité,
bon, Daniel, redescend, laisse la parole à Marquinhos avec Kevin qui nous traduit ça au-dessus, c'est parti, c'est
lui
juste à la sortie.
Lui, il est au-dessus. Mais il est bien seul.
Inexplicable, né, ces heures, je pense que c'est même difficile de parler.
C'est inexplicable dans ces heures comme ça, c'est difficile de parler.
Ces jeux sont muito difíceis.
On sait que ces matchs-là sont difficiles. Chaque ballon est décisif. Et aujourd'hui, la sélection norvégienne a réussi à être efficace sur les ballons qu'elle a eu à jouer. Nous, on a eu des chances, on a eu des opportunités, on a eu le pénalty, on en a eu d'autres. Mais on n'a pas réussi à passer à la prochaine phase. C'est de ma faute, moi je suis capitaine. Faut assumer cette faute. C'est un cycle qui va commencer à partir de maintenant. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais moi je crois que qu'il va falloir avoir la patience avec certains jeunes. Malheureusement, on n'a pas réussi à rentrer dans cette Coupe du Monde avec ce dernier cycle et à faire quelque chose. On a raté dans les choses où on doit être efficace. Maintenant, c'est apprendre, demander pardon au peuple brésilien. Ils sont venus très nombreux. J'espère que le peuple brésilien va pouvoir aider ces nouvelles générations à performer.
Voilà pour Marquinhos. Dans un instant, on se retrouve pour continuer l'analyse. On aura Clément qui est actuellement en Norvège. On ira également au Brésil dans quelques minutes. Le 32-16 est ouvert. Et puis d'ici 1h du matin, l'actualité du jour avec le carton rouge de Balogun qui fait beaucoup débattre. A tout de suite dans la nuit de l'after.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois. Il est minuit 22, la nuit de l'After continue avec, dans un peu plus d'une heure et demie maintenant, le deuxième match de la nuit. Mexique-Angleterre, on en parlera tout à l'heure. Daniel Riolo est là, Kevin Diaz également. On va reparler du Brésil dans quelques instants, mais là, concentrons-nous un peu sur la Norvège, les gars. On a Clément avec nous qui est en Norvège. Salut Clément.
Bonsoir messieurs.
Salut Clément.
Alors Clément, salut, je reçois un message là sur le numéro WhatsApp de l'After, Laurent, qui me dit « La Norvège, c'est la nouvelle Croatie. Deux défaites seulement sur les 21 derniers matchs, dont une avec l'équipe B face à la France. » C'est vrai que c'est une stat assez étonnante. Donc il n'y a pas vraiment de surprise, nous dit Laurent. Est-ce que toi t'es surpris Clément ?
Non, je suis pas surpris. Je m'excuse d'abord. Je vous appelle avec beaucoup d'émotion. C'est très beau ce qui arrive en Norvège en ce moment. Donc je vous appelle avec beaucoup d'émotion. Donc je m'excuse si mes propos peuvent être un peu incohérents. Mais non, je suis pas surpris. C'est la Norvège est un pays qui œuvre pour le football depuis des années, qui a bien travaillé, qui on le voit avec ce qu'a fait Bodø/Glimt, avec ce qu'a fait Brann en Coupe d'Europe. C'est un pays qui a beaucoup œuvré pour le sport en général, pas seulement pour le football. Et c'est bien de voir que ça paye. C'est bien de voir que ça paye. Et c'est un engouement national qui se fait depuis que la Norvège s'est qualifiée. Et on voit que ça continue. Et toutes les semaines, on a droit à une semaine en plus, à un match de plus. Et c'est absolument magnifique. Donc non, d'un côté, je suis pas surpris. C'est un petit pays au niveau du nombre de personnes. On est 5 millions ici. Mais non, quand on travaille bien, il y a moyen de faire des jolies choses.
Ouais, moi je suis d'accord. Et la fameuse série, c'est pas anodin. Une série comme ça, c'est jamais anodin. Je me souviens qu'avant l'Euro 2021, l'Italie de Mancini avait eu une série entre 30 et 35, je me souviens plus, de matchs sans défaite. Ça décrivait quand même une vraie confiance à l'intérieur d'un groupe où pourtant il n'y avait pas 1000 talents. Là, dans cette équipe de Norvège, Kevin l'a très bien dit tout à l'heure, t'as un super gardien, un très bon défenseur, un milieu terrain de classe mondiale et un attaquant de classe mondiale. Ce qu'écrit la Norvège là, c'est non seulement une performance brute, celle qu'on constate là, mais c'est une histoire récente qui alimente énormément de confiance. Je le disais tout à l'heure, c'est marrant de voir un aussi petit pays avec un faible passé footballistique dégager autant de confiance. Dès le début de la Coupe du Monde, on l'a senti cette confiance. Ils étaient dans un groupe, à mon sens, peut-être le plus compliqué, avec France et Sénégal. Et quand ils ont joué le deuxième match et que Haaland a dit contre la France, de toute façon, on va pas jouer. Et puis eux, ils vont gagner et tout. Dans cette phrase-là, je crois qu'il y avait énormément de choses. C'est la seule équipe qui a osé faire ça sur un match, de virer tout le monde, de mettre une équipe B 100% et de dire c'est bon. C'est un peu comme si on avait un plan. Je trouvais que c'était un mélange d'ambition et de prétention, parce que enlever toute une équipe alors que tu vas jouer l'équipe la plus grosse du groupe et que tu pourrais prétendre à jouer la première place. Non, c'est pas notre baston, elle est pas maintenant. C'est pas là maintenant que se joue notre Coupe du Monde, on s'en fout de ce match-là. De faire ça, moi je trouvais, je répète, que c'était suffisant, prétentieux, arrogant, tout ce que tu veux, mais écoute, après tout, ça a marché, donc félicitations. J'ai plutôt envie de leur dire que c'est un très bon choix, une très bonne stratégie. Derrière, ils ont joué la Côte d'Ivoire, ils jouent le Brésil. Franchement, sur le papier, deux très bonnes équipes. Il y a des équipes qui ont joué des 16e et des 8e bien plus faciles. Et ils se retrouvent en quart, top 8 pour la Norvège. Et contre l'Angleterre et le Mexique, je le répète, pour moi, c'est du 50-50, peu importe l'équipe que ça sera en face.
Ouais, moi je trouvais ça plutôt très judicieux hein, de la part du sélectionneur norvégien de faire tourner contre la France, parce que tu vois t'as par exemple certaines équipes qui n'ont pas fait tourner mais qui ont galéré, voire qui ont perdu leur dernier match ou qui ont été en galère, et du coup ça tenait pas un bon signal pour la suite si tu prenais 3-0 contre la France avec tes titulaires. Là il était qualifié, il a reposé des cadres, comme on l'a dit, il a pas non plus des cracks à tous les postes, donc il a pas voulu prendre le risque de perdre qui que ce soit pour le match coup près suivant, et donc ça leur a réussi. De toute façon, Haaland l'avait tout de suite dit après le match contre le Sénégal. Nous, de toute façon, on est qualifiés. Le match contre la France, il importe peu. De toute façon, ils vont sûrement nous battre et ils vont sûrement gagner la compétition. Mais je les ai trouvés très forts dans la communication. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, je répète, ils ont un plan. Le plan, il se déroule pour l'instant sans accroc. Mais pour le plan, il faut quand même parler d'Erling Haaland, quoi.
Alors, mais justement, Haaland, Clément,
ce qu'il fait, c'est incroyable.
On va parler d'Haaland, mais j'aimerais Clément, que tu nous dises ce qu'il représente un peu en Norvège, Haaland, toi qui es sur place.
Haaland, c'est le porte-étendard d'un footballeur qui réussit. On a évidemment Martin Ødegaard qui joue à Arsenal, mais qui a une saison compliquée, qui encore aujourd'hui fait débat. Son match d'aujourd'hui est pas considéré comme étant un beau match.
Mais pourquoi il fait débat? Vous avez pas non plus un choix de ouf au milieu quand t'as le numéro 10 qui joue aussi bien, qui joue à Arsenal. Quand tu fais débat, ça veut dire que qui pourrait jouer à sa place?
Non, mais c'est sûr. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, Daniel. Je suis totalement d'accord avec toi, Daniel. D'ailleurs, Daniel, je voulais une petite aparté. Je voudrais te féliciter pour la traduction de Erling Haaland que tu as fait après le match.
Oui, c'est parce que c'est des vacances en Norvège quand j'étais jeune.
Attends, parce que Haaland arrive, on va pouvoir le refaire.
D'accord. Non, mais voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a beaucoup de monde qui se plaint de la performance de Ødegaard en général. Et c'est vrai qu'il y a ce manque de stabilité qui gêne un petit peu. Et c'est vrai que Haaland est vraiment, voilà, le principe, un mec qui court après les statistiques, qui marque beaucoup de buts, quand on regarde avec ses statistiques en sélection nationale, c'est énorme. Donc non, c'est vraiment l'exemple typique d'un footballeur.
C'est quoi, c'est 62 buts en 54 matchs, non? C'est un truc comme ça?
Tout à fait.
Et
voilà, genre là, on regarde sur la Coupe du Monde, il joue 3 matchs.
Clément, tu parles norvégien?
Oui, bien sûr.
Tu veux nous traduire Haaland pour de vrai?
Avec grand plaisir.
Bon, on est en train de recaler ça. Attention, je pense que c'est parti.
Ça a été un match très compliqué. On est à 0-0 à la mi-temps.
Bah, c'est le journaliste qui parle, hein, qui lui pose la question. Clément?
Oui, je l'écoute. C'est un peu compliqué. Le son est pas génial, mais j'entends en gros ce qu'il.
Ah, alors dis-nous voir ce qu'il a dit là.
Oui, bah en fait, là, la question, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce qu'a dit Stoule Solbakken à la mi-temps, parce qu'on arrive à 0-0.
Ouais.
Et donc après, voilà, c'est bah, la manière dont ce qui a été dit à la mi-temps, j'ai pas très bien compris, j'ai pas très bien entendu, le son est pas génial. Mais en gros, voilà ce qui a été fait, comment repositionner l'entrée de Bob vers la 60e.
Moi, j'ai cru entendre vers la fin qu'il a ajouté. Moi, de toute façon, vous savez, j'ai pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. J'avais un papy sur le dos, Marquinhos, je l'ai broyé en deux. Après, il me manquait le deuxième guignol, Neymar est rentré à la fin. Bon, lui, il suffisait de le faire chialer, c'était réglé. Donc voilà. Après, on est allé faire du tambour et c'est bon. On est paré pour les quarts de finale. Maintenant, on est tranquille.
Un peu de choses près.
C'est pas beau, Daniel, ce que tu fais.
C'est pas moi, c'est Haaland qui a dit ça.
Dans la société norvégienne, il y a un truc Haaland. Enfin, je sais pas, moi, les gens qui suivent pas le foot, il y a une affection, j'en sais rien. Raconte-nous.
Oui, il y a une affection parce que c'est un. Moi, je vis à Kristiansund, donc Kristiansund qui est une petite ville sur la côte ouest de la Norvège, qui est à une heure de Molde. Molde, qui a été le premier club de Erling Braut Haaland. Et donc du coup, c'est un homme déjà qui est très apprécié, qui fait beaucoup de. Voilà, son physique peut faire peur et impressionner, mais c'est vraiment un mec en or qui fait beaucoup pour le football ici, qui a racheté le club de Brune, qui est donc son club formateur. Et puis oui, forcément, le football anglais est très populaire en Norvège. Et même si les gens des fois sont supporters de Liverpool, Arsenal ou United, il y a toujours de l'affection pour Haaland, peu importe c'est dans l'équipe dans laquelle il joue.
Clément, merci beaucoup.
Qu'est-ce que tu as fait en Norvège, toi, un projet sportif?
Moi?
Ouais.
Non, je suis cuisinier de métier et j'ai emménagé ici il y a 11 ans. Et d'accord. Donc là, je fais une reconversion professionnelle.
Très bien.
Mais je voulais juste finir pour saluer mon papa qui vous écoute souvent.
On l'embrasse aussi, on t'embrasse également. Amuse-toi bien en Norvège.
Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée.
Salut Clément, à bientôt.
Au revoir.
Alors oui, sur la Norvège, il faut qu'on dise un mot du gardien aussi. Parce que Nyland,
extraordinaire.
Là, gardien de Séville.
Il a fait un match.
Effectivement, c'est un truc de fou. Il n'y a pas vraiment de. Je regarde le nombre de tirs cadrés du Brésil, les gars, j'ai les stats là.
J'en ai en mémoire au moins. Alors,
oui, 4-5 arrêts décisifs.
3, mais et après, il y a les situations chaudes où le ballon passait devant ses cages.
Il n'y a que 3 tirs cadrés brésiliens.
Mais il y a Vinicius. Ouais,
il y a le sauvetage aussi sur le presque CSC là, du défenseur qui dégage.
Sur le poteau, oui.
Où il derrière, il a un réflexe énorme. Ça compte pas comme une frappe au but, mais l'arrêt est
extraordinaire. C'est une situation dangereuse qui rentre pas dans les stats. Et puis après, il y a surtout, 12e minute, t'arrêtes un pénalty. Ça donne une confiance dingue à l'équipe. Toi, déjà, ça te met en grande confiance. Et derrière, il a déroulé un match top niveau, le gardien.
Les gars, le pénalty. D'où sort Bruno Guimarães pour tirer un pénalty?
Alors
sa carrière, il avait tiré 3 pénaux.
Bah, pourquoi Vinicius s'est pas présenté?
C'est incroyable.
C'est l'une des questions qui, j'espère, sera posée à Carlo Ancelotti, parce que Vinicius, normalement, c'est lui le patron de cette équipe. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a pas pris le ballon?
Non, mais en fait, ce qu'il faut qu'on arrive, parce qu'il y a vraiment un phénomène sur les pénaltys sur les dernières saisons. Tu sais, il y a eu ce problème-là aussi à un moment en équipe de France avec Griezmann qui ratait des pénaltys. Ça a été le cas aussi au Real. On savait plus qui devait tirer les pénaux. Ça a été le cas aussi au Paris Saint-Germain. Ça a été le cas aussi au Barça à un moment. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour tirer un pénalty, il faut une précision hors du commun. Et le souci qu'on a dans le sport de haut niveau, c'est qu'on n'accepte plus l'échec. Mais là, aujourd'hui, on parle trop de l'échec des tireurs. Mais je le dis, je le répète, vous savez que je suis un spécialiste des coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, un gardien comme Nyland, 2 mètres, s'il choisit le bon côté, à moins que tu sois Franck Sauzé, ou à l'époque, Franck Leboeuf, on en a parlé avec Gilbert, qui mettait une mine sous la barre, ou comme Cristiano a fort justement tiré bien au milieu, ou alors t'es le meilleur, Daniel, je veux t'entendre le dire, ou alors l'histoire du football, qui s'appelle Neymar Junior, qui arrive à regarder le gardien et tirer, c'est extraordinaire.
Non, c'était Michel, il n'en a raté qu'un.
Ouais, non, mais Michel, il faisait ça avec des gardiens d'un mètre 78, pas avec des gardiens de 2 mètres, qui choisissent le bon côté. Aujourd'hui, un gardien de 2 mètres qui choisit le bon côté, c'est quasiment impossible de marquer. Ça, on pourrait demander à Thierry, c'est Barnera qui s'appelle le coach de.
Alors, c'est une réflexion intéressante qui rejoint celle sur la taille des murs pour les coups francs trop près du but. Je suis d'accord.
Exactement.
Néanmoins, il va falloir aussi se poser la question
des tireurs
qui viennent faire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ça, déjà des sûr. Choix, c'est-à-dire Guimarães qui n'en tire quasiment jamais, alors que celui qui en tire le plus ne va pas au ballon. Ensuite, pourquoi ces courses saccadées si c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, si c'est un geste que tu ne maîtrises pas? Pourquoi tu t'obliges à faire cette espèce de feinte à la con qui visiblement emmerde plus le tireur que le gardien? Donc ce que tu dis est juste, mais malheureusement ça vient percuter une autre réalité, c'est que il y a soit choix de tireur ridicule, soit façon de faire encore pire.
Mais ça va aussi avec ce football. Quand on dit le football était mieux avant, c'est pas une question de football, c'est pas une question de vitesse, c'est pas une question de technique. Je pense que les joueurs d'aujourd'hui sont techniques, etc. Mais ils ont les réseaux sociaux, ils regardent des trucs à droite, à gauche. Ils veulent faire comme Neymar. Mais Bruno Guimaraes, qu'est-ce que tu vas me prendre deux pas d'élan? Si depuis la nuit des temps, les gens ils prennent 5 mètres d'élan, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est comme ça que tu arrives avec de la vitesse à transposer la vitesse vers le ballon.
C'est la puissance qui te permettra de contrer ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir que la taille des gardiens, la masse qu'ils sont dans les buts est plus grande. Donc, s'ils partent du bon côté, le seul moyen de passer, c'est vraiment que le ballon aille plus vite que l'homme au sol.
Et donc, les gardiens
sont frappés fort. Et les mecs, ils prennent deux pas d'élan, ils sont ridicules. Leur petit pas de cabri à la con, là.
Non, mais je le dis. Aujourd'hui, quand tu. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec la phrase de Didier Deschamps.
Minute 35, j'ouvre pas la cagnotte au gros mot.
Non, parce qu'après minuit, c'est pour ça, t'as remarqué, je me lâche un peu depuis minuit, là. Voilà.
Bien sûr, je n'ouvre pas la case de Didier Deschamps et son histoire de loterie. Mais il y a bien sûr une part de chance énorme, puisque aujourd'hui, si le gardien choisit le mauvais côté, forcément, t'as des grandes chances de marquer. Par contre, il y a trois tiers dans le but, je le répète, le tiers bas, le tiers du milieu et le tiers du haut. Si tu veux marquer, faut tirer tiers du haut et t'es sûr de marquer. Par contre, il y a Yacine Bono qui nous a sorti un nouveau truc et qui lui... Mais lui, Bono, il a fait une dinguerie. C'est-à-dire qu'il a pas plongé, il est resté debout.
Et parce qu'un gardien,
si un gardien plonge depuis le milieu du but, il a aucune chance d'aller sous la barre, ça c'est sûr. Donc bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faut être très très fort pour tirer des pénaltys, et il faut être très très fort, et il n'y a pas que les pénaltys, je revois l'action d'Hendrick. Hendrick, je suis désolé, sa touche de balle, elle est catastrophique.
Hendrick,
il a rien d'un Brésilien, Hendrick. Hendrick, c'est un joueur musculeux, très puissant, qui a une belle frappe de balle, mais c'est pas parce que la passe de Vinicius. Par contre, là,
La passe de Vinicius a progressé.
Comme quoi, on peut progresser.
C'est magnifique. Peut-être son meilleur geste technique du match, parce que pour le reste, on l'a pas vu, les gars.
Pas
Vinicius.
Et soi-disant, c'est le patron de l'équipe. Vinicius, il fait rien.
Il fait rien du tout, exactement.
Oui, mais parce que c'est un patron, qui peut-être qu'à l'époque de Ronaldo et Romario, etc., ou de Ronaldo et de Rivaldo,
ça aurait été un remplaçant,
ça aurait été un Martinelli.
C'est pas un joueur intelligent, Vinicius, c'est ça son problème.
Tiens, allez sur Netflix, il y a un documentaire qui retrace la victoire du Brésil en 94, avec les joueurs qui témoignent à peu près tous. Et en fait, Romario, à plusieurs reprises dans le documentaire, qui est exceptionnel, je te le conseille, Kevin.
Ils expliquent comment ils ont eu la chatte en finale, pour que jamais ils doivent gagner.
Il dit moi, le buteur c'est moi. Donc quand un mec arrive dans la surface de réparation, je leur ai dit, mais en fait, ne tirez pas, vous devez me donner le ballon, vous devez me le donner, parce que c'est moi qui lui ai marqué de toute façon.
Romario.
Et donc il refaisait les actions, il est là, par exemple, lui, il m'a donné le ballon, il aurait pu tirer, il me l'a donné, il a eu raison, c'est ce qu'il fallait faire.
Voilà. Mais c'est le talent pur.
Parce que le mec, il avait une espèce d'assurance comme ça.
Mais c'est la même chose pour Haaland. Si tu regardes les Norvégiens, dès qu'ils sont dans la surface, ils cherchent Haaland.
Sauf que Haaland, avec son côté quasiment immobile, massif, où il a pesé sur les deux défenseurs, il les a broyés.
Sans élan et à 20 mètres du but,
avec aussi peu dans le match, c'est-à-dire une occasion et demie, parce que la frappe, il faut la mettre de là où il est. Il va te mettre deux buts en bougeant peu, en ne faisant principalement que peser et broyer un peu les défenseurs et en attendant le moment. Mais quand l'action de son premier but, quand le centre est venu, Kevin, tu l'as senti. T'as senti à ce moment-là, s'il passe, mais il va. Enfin voilà, on sentait que physiquement, il allait s'imposer et que c'était terminé. Il allait manger le défenseur à ce moment-là.
Grosse dédicace à Coach Courbis. On pense à lui parce que aujourd'hui, les latéraux. J'ai vu une discussion entre Roy Keane et Neville pour un média anglais où il parlait justement du fait que Roy Keane se plaignait que les latéraux n'empêchent plus le centre. Mais quand t'as Erling Haaland dans l'axe, en fait, t'as qu'une seule chose à faire, c'est empêche-le de centrer, le gars. Et qu'est-ce que c'est mal défendu. Et c'est pareil pour Nuno Mendes avec le Portugal
mais
contre la Croatie.
Si c'est mal défendu, qui ne défend Haaland, pas du tout. Puissant, c'était fini. Dès que le centre est parti, je savais qu'il
Simple, je reprends la phrase de Coach Courbis. Il y a un attaquant, il y a un défenseur. Le gars, il centre, c'est 1-0 pour l'attaquant. C'est tout. C'est tout. Si t'es défenseur, tu comptes le centre, c'est 1-0 pour toi. Donc, en fait, t'as qu'une seule chose à faire, c'est d'empêcher le centre. D'empêcher la frappe. Et pareil, d'empêcher la frappe. Il y a un nombre de buts incroyable entre les jambes depuis le début de cette Coupe du Monde, entre les jambes des défenseurs. Et les mecs aujourd'hui sont trop précis. Si tu les laisses frapper, tes défenseurs, il a frappé, t'es passé, c'est 0-1. Mais les gens aujourd'hui ne savent plus défendre parce qu'ils sont là pour contre-attaquer, ils sont là pour avoir la possession, pour sortir les ballons. Mais il y a plus d'un mec qui est là et qui laisse pas frapper ou pas centrer. Son gars.
Messieurs, dames, minute 39. L'homme que vous écoutez s'appelle Kevin Diaz. C'est une création de l'After Foot. Vous avez vu comme il est bon ? Ben voilà, il s'appelle Kevin. D'ailleurs, j'ai reçu une lettre d'Hélène.
Marque déposée.
Oula. J'ai reçu une lettre d'Hélène, une auditrice de l'After qui est au Canada, à Halifax, et qui nous écoute et qui nous dit c'est super ce que
j'adore
vous faites.
J'adore le nom d'Halifax comme ville, j'ai l'impression que c'est une ville d'espions.
Elle dit moi, en vous Lord écoutant, Halifax, je me sens moins isolé, moins loin de ma terre de foot, puisqu'elle est française et pour l'équipe de France. Mais elle dit post-scriptum, je cite, il faut vraiment que Kevin Diaz arrête avec ses 25 pays de cœur. Je ne veux pas juger de l'égalité entre le Portugal et la France. Mais bon, on peut pas supporter 12 équipes à la fois. Elle dit, moi, j'ai vécu aux États-Unis. Mon mari est américain. Eh ben, jamais je ne chanterai USA, USA. Voilà. Je suis au Canada. Jamais je vais me mettre une feuille d'érable sur la joue.
USA. Exactement.
Voilà.
Mais Kevin, donc, il a Pays-Bas.
On peut avoir plusieurs
il a
pays de cœur. Mais on n'a qu'une
il
seule
a
équipe.
France.
Voilà, je ne peux pas me plaindre dans un pays de vie, dans un pays de footix, si les consultants de RMC font pareil.
Exactement, exactement.
Non, mais là c'est quelque chose d'assumé. Faut savoir pour nos auditeurs que
footix,
non, mais...
assumé, c'est pas moins coupable. Hein.
Non, c'est pas footix, c'est fan de foot assumé. Faut savoir que quand tu travailles dans le foot, et ça, je suis très sérieux, c'est très très, et je pense que Daniel est un peu comme moi, c'est très très difficile d'avoir des émotions pour le foot. Parce que ça devient un travail, d'accord ? Donc, moi, j'ai des émotions pour mon club. Après, quand t'es franco-portugais, j'ai des émotions pour les deux pays. Mais j'ai bien kiffé voir Harry Kane, qui est un joueur que j'adore. Il faut aussi se laisser porter dans les émotions quand t'es dans une Coupe du Monde, à New York, aux États-Unis. Voilà, moi j'aime bien le... Hier, j'ai été voir un match des Yankees. Bah voilà, je me suis levé, je connaissais à peine
Yankees,
les joueurs.
Tu comprends rien au baseball ?
Si, je connais un peu le baseball, bah ouais, mais j'ai surtout été le montrer à mes enfants.
Un hot dog était rentré, voyons, arrête.
Ah non, j'ai pas mangé de hot dog, mais je suis rentré, j'ai pas payé très cher.
Rentré, des pop-corns,
j'ai vu que les gens rentraient, sortis, voilà, mais j'étais dans l'ambiance,
gens,
c'était le 4 juillet.
Perdons pas de temps, revenons au Brésil, parce qu'on a Catson avec
pitchers,
nous. Catson est au Brésil, il est sur place. Bonsoir Catson.
Bonsoir les amis, ça va ?
Merci d'avoir patienté. Catson, est-ce qu'il faut changer de sélectionneur ? Est-ce qu'il faut virer Ancelotti ?
Il faut tout changer.
Bien sûr qu'il faut changer parce que, en fait, moi personnellement, je n'étais pas pour qu'il vienne. Parce que je trouve Ancelotti très limité tactiquement. Vu qu'il a entraîné le PSG, déjà j'étais à Paris lorsqu'il a entraîné le PSG, aucun style de jeu, que de jeu en transition. Ce mec, c'est un mensonge. Et les Brésiliens, ils ne savaient pas, ils ont pris. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui un peu, à cause de lui.
C'est aussi parce que tu as une génération peut-être de joueurs brésiliens aussi qui est moins bien, tout simplement.
Moins bien, mais il y en a des joueurs. Hein. C'est un grand pays. Il fallait qu'ils regardent plutôt le foot brésilien, là, le championnat brésilien, parce qu'on a des bons joueurs. Et voilà, quoi. Il n'a pas pris son temps pour regarder le foot brésilien. Pour moi, c'est un mensonge, c'est un mauvais technicien.
Bon, après, vous n'avez pas beaucoup de bons joueurs. Hein, et vous avez des joueurs qui ne sont pas très malins, quand même. Hein.
Non, mais voilà, au
faut
Brésil,
dire la vérité,
on a des joueurs, franchement, le championnat brésilien, il y a des joueurs de qualité, il fallait qu'il lui regarde, il prenne son temps, il n'est pas venu, il n'a pas pris son temps pour travailler, il n'a pas travaillé ici, il a pris l'argent, et pour moi, il est moyen, même lorsqu'il a entraîné le PSG, il a montré ses limites. Même
non, mais tu peux pas dire ça.
Trois titres à son
c'est un des plus grands entraîneurs de l'histoire du foot. Attention. Laisse-moi te répondre. Aujourd'hui, le problème du football brésilien, il est plus sur le fait de laisser partir ses talents trop tôt, parce qu'aujourd'hui le football au Brésil comme ailleurs est une économie et qu'ils veulent donc équilibrer le compte des clubs et prendre les billets quand il y a à les prendre, parce que sinon ils savent très bien que les joueurs, eh ben on peut se rendre compte qu'ils sont
pas aussi bons que ce qu'on a cru. En France aussi on fait partir.
Quand tu déracines un Brésilien à 17 ans, tous ces joueurs-là sont partis tôt.
La France et Hagel ont fait ça, Kevin. Je comprends ce que tu dis, mais ça ne peut pas être l'explication première.
Quand tu déracines un Brésilien, c'est pas pareil.
Qu'est-ce que tu veux faire avec tes joueurs? Le Brésil, c'est un réservoir monumental de joueurs de foot. Mais est-ce que les gamins jouent encore au foot? Comment ils jouent au foot? Comment ils sont entraînés? Il y a beaucoup de questions à se poser. les joueurs aujourd'hui dans l'équipe brésilienne, ce qui fait le plus gros défaut, c'est déjà le QI football. T'as peu de joueurs réellement intelligents. Si en plus le pays qui était celui de la technique, du rapport au ballon, on te dit qu'Hendrick c'est une star, que c'est un grand joueur, bah là il y a un problème si on comprend ça. Oui. Si on comprend ça. Et à la dernière Coupe du Monde, c'était Richarlison le numéro 9. Et lui, c'est pareil, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Et si ton leader, c'est Vinicius, qui est évidemment un bon joueur, mais avec un QI football ultra limité, c'est un autre problème. Et si en plus, ton sauveur, celui dont on te vend comme l'éventuel sauveur de la patrie, s'appelle Neymar, que t'ajoutes dans le groupe pour des raisons politiques, t'as encore un plus gros énorme problème. Au final, tu n'as que des problèmes. Tu n'as que des problèmes au Brésil.
Tu as beaucoup de problèmes.
Et moi, je le dis depuis des mois. Ça fait des mois que je dis que cette sélection vaut rien. Et quand Ancelotti ou quand Ancelotti allait dans le mur.
C'est pas vrai qu'elle vaut rien. Elle vaut quelque chose, mais aujourd'hui, si tu ne travailles pas, si tu ne travailles pas bien depuis la base, c'est-à-dire dans tout. Mais si tu travailles pas bien à ta fédération, eh ben tu vas être rattrapé par les pays émergents, parce qu'aujourd'hui t'as la Colombie, t'as l'Équateur, t'as forcément l'Argentine. Mais quand Messi va arrêter, ils peuvent avoir aussi un souci. Tous les pays qui sont sur leurs acquis et qui ne se remettent pas en question, eh bien derrière c'est beaucoup plus difficile. Il y a plus d'équipes. Même aujourd'hui la Norvège, ils te mettent une dent si t'es pas bon. Ils ont un phénomène, ils te mettent deux buts, tu rentres chez toi et c'est tout. Et donc aujourd'hui il faut que les fédérations, comme les clubs, comme les grands clubs, c'est pareil pour les grands clubs hein, en Europe ou ailleurs. Si les grands clubs ou les grandes fédérations arrêtent de travailler et croient que c'est juste le passé et leur nom qui va les faire gagner les matchs, eh ben ils vont continuer de connaître des routes sur des routes, Italie, Allemagne et compagnie.
Katson, Neymar ne sera jamais champion du monde.
J'ai pas compris parce qu'il y a du bruit ici.
Je dis Neymar ne sera jamais champion du monde.
Oui, c'est dommage parce que c'est le dernier crack brésilien. Et moi, j'étais pour qu'il vienne à la Coupe du Monde, parce que on n'a pas le choix. Regardez, c'est un génie, même s'il n'est pas 100%, je pense qu'il peut trouver une passe, voilà, le penalty par exemple, il pouvait le tirer. Je pense qu'il fallait rentrer.
Ah, tu veux dire Neymar titulaire, il y a 1-0 avec le penalty, quoi, en gros.
Ouais, et après, tu joues à 10 contre 11 parce qu'il est incapable de courir.
Regarde, vous avez bien expliqué la situation brésilienne. Dans ce contexte, pour moi, il fallait qu'il débute le match. Parce que c'est vrai que la Norvège, elle avait la possession des balles, mais il n'y avait pas une pression. Ils n'avaient pas trop de contact physique. Moi, je pense que Neymar pouvait, voilà, débuter le match. S'il avait débuté le match, le penalty, vous avez vu le dernier.
Et après, tu jouais à un joueur de moins s'il démarrait. Parce qu'il est incapable de courir.
Mais après, on pouvait le sentir.
En fait, le problème, cher ami, c'est que tu illustres les difficultés de ton pays. C'est qu'en disant ça, ça montre bien qu'au Brésil, vous comprenez plus le football, en fait.
Non, Daniel Rolo,
Si tu penses que Neymar il peut jouer dès le début un huitième de finale de Coupe du Monde, mais c'est que vous comprenez plus le football. C'est comme si vous pensez qu'Hendrick est un fantastique joueur de foot. Le Brésil, c'est pas ça. Le Brésil, c'est pas des joueurs qui jouent en marchant et c'est pas des joueurs qui savent pas faire un contrôle de balle. C'est pas vous insultez l'histoire de votre pays parce que votre pays c'est un des plus grands pays de l'histoire du foot.
Réponse de Katson.
Et là tu veux jouer avec Neymar qui est incapable de courir sur un terrain.
Katson, tu peux répondre.
Trop concentré sur Neymar. Non, mais c'est plus complexe.
C'est toi qui demandes qu'il soit titulaire au début. Il peut pas être titulaire, il peut pas courir.
Parce que regarde, c'est qui on arrive.
Mais c'est fini le football sans courir.
Non, oui, mais dans la situation qu'on est, on n'avait pas le choix. On arrive pas.
Ah bah, on t'aurait perdu 3-0 avec Neymar au coup d'envoi.
Non, je pense pas.
En tout cas, t'aurais mené 1-0 sur le penalty.
Non, regarde.
Mais non, avec lui, tu l'aurais pas eu parce que c'est Martinelli qui fait la passe. Arrêtez de raconter n'importe quoi, bon sang! Mais bon sang, c'est Martinelli qui fait la super passe.
Daniel.
Neymar, il aurait même pas été dans la zone du terrain tellement il traîne un tracteur. Il a un tracteur au cul, qu'est-ce que tu racontes?
Bien sûr qu'il est à 50%, mais même à 50%.
Mais le penalty, il l'aurait même pas eu.
Ouais, c'est pas sûr quand même. Ils l'ont eu avec lui sur le terrain.
En fait, vous êtes fou. Vous êtes fou. Voilà, vous êtes
fou. Mais on te dit pas, que c'est le meilleur joueur, de la compétition.
Mais on dirait qu'il fait de la boxe. C'est pas du foot.
Non, et d'accord. Bon, passons de toute façon. Il est éliminé. Mais je te dis que moi, je suis pas loin d'être d'accord.
Le cirque de la liste.
Mais non, personne t'a vendu. C'est bien qu'il soit dans la liste. Personne t'a vendu. Neymar va être le meilleur joueur de la Coupe.
Il a rien fait. Et vous trouvez encore le moyen de le défendre. Bah, vous êtes fou. Vous êtes fou.
On l'a pas défendu.
Je pense que vous êtes fou.
Notre auditeur t'explique qu'il aurait aimé le voir titulaire.
Non, Kevin Diaz, t'es un fou.
Mais il a rien dit, Kevin.
Mais si, il a dit.
Non, mais Daniel, arrête un peu. Je veux bien que tu fasses le spectacle. Mais faut pas non plus détourner les propos. Il a rien dit, Kevin.
Il
a dit.
Non, mais c'est pas son genre. Gilbert, c'est pas son genre de détourner les propos.
Neymar avait été là. Genre, le mec, en fait, c'est le
plus américain. Il aurait mis un pénalty, c'est ce que m'explique.
Tu fais rentrer le mec. Mais tu sais, t'as qu'à faire ça comme règle.
Bon, passons à la suite.
Tu fais le foot américain. Tu sais, le mec qui rentre juste pour tirer là.
Moi, j'adore le foot américain. Le kicker. Tu fais rentrer le kicker, ça s'appelle.
Passons à la suite. On va faire une petite évaluation ensemble et puis on va parler de l'actu du jour. Je remercie Katson qui s'est bien défendu et qui était en direct du Brésil.
Salut Katson.
Magnifique accent.
Oubliez Neymar. Oublie
les Brésiliens qui parlent français, toujours avec
Neymar, qualité
de français extraordinaire.
Ouvre la poubelle au fond du jardin, tu les mets tous dedans.
Je pense que Katson parle mieux français que Kevin Diaz ne parle portugais. Je suis quasi sûr.
Oui, d'ailleurs, il y a un mythe là-dessus sur Kevin.
Là, je pense avoir réglé toutes ces histoires de langue depuis que je suis ici, mais bon, écoutez.
Allez, à tout de suite dans l'after, l'évaluation et le reste de l'actu du jour.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Drivois. Il est minuit 50 dans le studio de l'After, nuit de l'After jusqu'à ce soir, 4h du matin, avec dans 1h10 maintenant le coup d'envoi de Mexique-Angleterre, énorme affiche que l'on va vivre sur RMC. Vous saurez tout du match dans quelques instants, Nico Jama va prendre la suite. Bien sûr, donc rendez-vous d'ici 10 minutes pour parler de ce match. On est, nous, toujours sur la rencontre Brésil-Norvège avec sa victoire donc de la Norvège de 2-1. Je voulais faire une évaluation, mais plutôt qu'une évaluation, on peut peut-être lister tous les joueurs brésiliens un peu en fin de course qui vont disparaître. Et là, on se rend compte que derrière, c'est quand même le grand vide. Bon, Gabriel, on peut estimer que lui, en défense centrale, il peut devenir un taulier, peut-être un capitaine, allez savoir, dans les années qui viennent. Enfin, Marquinhos, il est en fin de course. Casemiro, on a encore vu aujourd'hui qu'il est en fin de course. Neymar, j'en parle même pas. Donc en fait, qui sont les futurs tauliers? C'est ça qui est un peu flippant. C'est difficile d'avoir des noms en fait. Alors Vinicius, ok. Ben Vinicius, on voit bien que là, ce soir, il est pas capable de porter l'équipe.
Bah, je ne vois pas en fait. J'ai pas de réponse à tes questions.
On n'a pas de.
J'ai pas de réponse. Je vois pas de.
On peut pas être optimiste là pour le court terme.
Je vois pas de grands joueurs brésiliens aujourd'hui. Je vois pas de gars au milieu en attaque. Je j'ai pas de réponse à ta question.
Bon, parce que après les autres, c'est Paqueta, Guimarães, tout ça.
Non, c'est pas des grands joueurs. Il n'y a pas de gars capable d'emmener le Brésil à des titres importants. Non, j'ai pas ça. Je vois pas ça.
Kevin, t'es d'accord?
Non, mais je suis d'accord. Après, attention, je suis pas le football brésilien pour savoir qui sont les nouveaux cracks là qui vont arriver dans les prochains mois. Ils arriveront toujours à former des joueurs parce que Daniel le disait quand même. Alors, j'ai jamais eu la chance d'aller au Brésil, mais tu vois quand même les images toujours. Et puis il y a les témoignages que sur la plage, ça joue toujours les femmes, les hommes.
C'est pas en faisant 4 jongles que tu deviens champion du monde. Hein.
Non, mais attention, le toucher. Moi, j'ai joué avec beaucoup de Brésiliens pour le coup, voire contre.
Ah, mais ce toucher-là, on le voit plus dans la sélection, mon vieux.
Ils ont quand même un toucher qui est au-dessus de la moyenne quand même. Après, le problème, c'est qu'ils rentrent de plus en plus tôt dans les clubs. Je crois qu'ils font de moins en moins de futsal peut-être aussi. Alors qu'au début, ils faisaient des Ronaldinho, des Neymar. Ils ont tous commencé par le foot de rue, puis le futsal.
Et la base des joueurs qui étaient au Mondial des clubs là contre le PSG l'année dernière, dirigé par Philippe Louche, qui est maintenant à Monaco, c'est peut-être lui qu'il fallait mettre en sélectionneur et adopter le style.
Tu parles de Flamengo là.
Oui, Flamengo, voilà. Il fallait peut-être adopter ce style-là. Il y avait certainement des joueurs à ramasser dans cette équipe et construire autour de ça. Au moins, il y avait un style de jeu. Il y avait une idée. Là, il y avait aucun style. C'était un assemblage avec éventuellement peut-être miser sur Neymar sur Vinicius pour faire la diff. Bon, bref, la sauce Ancelotti a pas du tout pris. Je sais même pas s'il va rester. Il a signé un contrat d'accord, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt en fait. Donc je sais pas. Pour le coup, je disais tout à l'heure, il y a pas d'entraîneur brésilien. C'est vrai que ça a jamais été la spécialité de ce pays.
Ancelotti a encore le temps de lever le doigt et de dire finalement, je veux bien être sélectionneur de l'Italie.
Ah ben non, parce que Mancini est revenu, donc c'est fini.
On
a plus besoin de lui. Il a pas voulu venir quand il fallait.
Faut quand même pas complètement noircir le tableau. Ancelotti, depuis qu'il est là, il est pas arrivé depuis très longtemps. Il a quand même fait un travail correct. Ce soir, si
il a fait quoi en fait?
Non mais on vient de dire qu'ils ont pas énormément de talent.
Il s'est assis à l'avant de l'avion, à l'avant du bus.
Ce soir, si c'est le Brésil qui gagne 2-1, c'est pas non plus le scandale de l'année.
Sauf que là, ils perdent et qu'en fait,
Je reprends les propos très bien traduits par Kevin Diaz de Marquinhos, qui disait quand même que il va falloir du temps.
Le mec s'autocite maintenant.
Il va falloir du temps pour arriver à ce que cette sélection redevienne ce qu'elle Je ne sais pas si elle redeviendra ce qu'elle fut, mais en tout cas, qu'elle puisse laisser travailler les jeunes et laisser travailler cet entraîneur.
Kevin, quand tu t'appelles le Brésil, que tu as cette histoire, ce rapport au ballon, cette vision, ce jeu...
Il n'y a qu'un seul homme qui peut les sauver, et moi je l'ai.
Tu ne peux pas.
Il faut aller prendre Pep Guardiola. Voilà. Écoute. Il voulait venir un moment. Prenez Pep Guardiola, dites-lui, écoute, ta carrière, écoute, tu l'as derrière
en
toi.
Nous, on veut
que tu refasses de nous un pays de football. Laissez-lui 6-7 ans, 8, peut-être
d'accord.
8 ans, allez, okay. deux cycles de Coupe du Monde.
Aussi, bien
non, 8
sûr.
Ans. Okay. Tu vas pouvoir t'occuper de tes enfants. Et viens sauver la patrie du foot.
Quand tu t'appelles le Brésil, que tu me dis que c'est pas catastrophique ou quoi, quand tu t'appelles le Brésil, que tu représentes ce qu'il représente dans l'histoire du jeu, que tu termines contre la Norvège avec 34% de possession, avec 329 passes contre 680. Je veux même pas savoir.
Il va falloir avancer, hein. Il va falloir se relever.
Je ne veux pas savoir le résultat final. Je dis que ça, c'est les bases. C'est l'ADN du Brésil. L'ADN, c'est avoir le ballon, se faire des passes. Je suis même pas en train de te dire des bonnes passes, des passes verticales, des percussions. Je suis juste en train de te dire la base de ce qu'est l'ADN football de ce pays. Tu ne peux pas, face à la Norvège, terminer avec 35%
de
possession et un nombre de passes aussi faible par rapport à la
solution, c'est Guardiola.
Ça n'est pas possible.
Je terminerai par cette stat qu'on donnait en début de rencontre. Donc la Norvège reste le pays invaincu face au Brésil. 5 matchs, 0 défaite. Bravo les Norvégiens. Balogun, on apprend. Pam, tout à l'heure, début de soirée, que notre ami Balogun, qui avait pris en 16e de finale, et ben le rouge est effacé. Le rouge est effacé, donc Balogun peut jouer demain face à la Belgique. Et là, évidemment, hasard ou pas, vous allez me dire non. Donald Trump, sur son réseau social personnel, envoie un message en disant « Merci la FIFA d'avoir réparé cette injustice totale ». Et là, on a un journaliste américain, a priori bien informé, qui s'appelle Ben Jacobs, qui tweet, qui dit qu'en gros, la Maison-Blanche a appelé la FIFA. Bon, j'emploie le conditionnel, évidemment, mais enfin, il est vrai que c'est quand même absolument dingue. C'est la première fois qu'un cas comme ça arrive depuis l'introduction du carton rouge à la Coupe du Monde. Ce n'est jamais arrivé. Jamais. Donc est-ce que là, Infantino s'est une nouvelle fois couché devant Donald Trump et la FIFA s'est ridiculisée? Quel est votre avis? Il nous reste 1 minute 50.
Donc Trump, ça veut dire, si on suit cette histoire, qui est complètement folle, qu'un conseiller, parce que lui, le foot, il comprend pas, il sait même pas qui est Balogun, qu'un conseiller sport ou je ne sais quoi est venu le voir... Donc pas immédiatement après le dernier match et tout, mais là, pour lui dire, Monsieur le Président, on a un problème, Balogun c'est notre attaquant. Qui ça? Balogun c'est notre attaquant, il va manquer dans le 8e de finale contre la Belgique. Vous pouvez faire quelque chose? Et donc Trump prend son téléphone, appelle Infantino et fait « Trouve-moi un article du règlement pour faire sauter le carton rouge ». J'avoue que c'est tellement énorme que je ne le comprends même pas. Qu'on ait avantagé le pays organisateur, malheureusement, ça n'excuse rien du tout, c'est juste complètement fou, hein, je le dis, c'est fou, mais qu'on arrange le pays organisateur, c'est plutôt une tradition dans l'histoire du football. Je trouve ça dingo. Alors certes, le carton rouge était très, très dur et probablement injustifié, mais qu'on assiste à ça, ça me laisse sans voix, mais comme je n'ai pas de preuves, que je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment le commenter en fait. Je peux juste dire que c'est fou. Voilà,
je ne sais pas ce qui s'est passé en interne et si c'est autre chose. Moi, je pourrais pas me prononcer là-dessus. Par contre, une chose est certaine, c'est que quand j'ai vu le carton rouge de Balogun, j'ai dit que pour moi, il devait pouvoir jouer le match d'après. Après, je sais pas quels sont les règlements. Je ne sais pas si c'est possible.
C'est pas le carton rouge le plus scandaleux de l'histoire, en effet.
C'est un rouge qui, pour moi, aurait jamais dû être donné.
Ça va faire une jurisprudence. Ça veut dire qu'à l'avenir.
Pour moi, il n'y a pas de problème.
Les Belges sont foudrage ce soir, d'ailleurs.
Ouais, mais il faudrait que ça arrive. Ça crée un précédent, j'attends de voir quoi.
D'ailleurs, la France va demander que le carton jaune d'Olysée soit effacé. Si Emmanuel Macron pouvait appeler Infantino, ça pourrait aider.
Non, du coup, je sais pas.
Sinon, je voulais quand même finir là-dessus, vous dire quand même que la presse paraguayenne a dit excellent arbitrage hier soir. Nos joueurs ont fait le maximum. L'arbitre est excellent.
Ouais, c'est pas
très bon avis de Daniel sur ce qui s'est passé hier. Je suis complètement d'accord.
Voilà, je vous invite à le réécouter en podcast.
Sur la majorité des points.
Nico Jamin arrive et on a encore un match de feu.
Kevin, amusez-vous bien.
Salut les gars. Salut. Angleterre, il est minuit 50.
Est-ce qu'il a réussi à aller au stade, Niki?
Oui, il a été au stade.
Ah,
oui,
bravo, il est fort. Mais qu'est-ce que tu l'auras croqué dans trois semaines? Il a vu les Knicks, il a vu le Madison, il a vu le MetLife,
il a vu les Yankees, il a vu les Yankees des autoroutes.
J'ai le droit de parler?
Il est trop fort. Il est trop fort.
Je suis allé travailler au stade, Daniel.
Il est trop fort.
Tu sais très bien, mieux que personne, on est meilleur quand on a vu le match en vrai.
Mais tu es, mais je n'en doute pas une seconde, je te félicite. Je n'ai fait que ça depuis le 10 juin, te féliciter.
Merci Daniel.
Mais tu vois, ça c'est de l'opportunisme, mais fort, tu vois. Au bon sens du terme.
C'est Pippo Inzaghi, tout ce qui traîne, c'est au fond.
Pourquoi on est venu aux États-Unis? C'est la volonté de Gilbert. Il dit on est meilleur quand on est sur place. C'est comme ça que Gilbert a réussi à nous amener ici.
Et
voilà pourquoi on est là.
On a essayé un soir, on s'est fait recaler.
D'ailleurs, on est rentré, on est vachement moins bon depuis deux jours, nous.
Moi, on n'est jamais aussi bon que dans notre studio. C'est juste mon avis, mais c'est comme ça.
Allez, c'est à vous, les gars, jusqu'à 4h du matin. Bonne nuit à tous. La nuit de l'after continue.
RMC, l'after foot. Intégrale Coupe du Monde.